Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ces deux heures d'Europe Soir. Le gouvernement face à une crise institutionnelle et policière. On en parlera très largement ce soir. Jean Castex contraint de faire marche arrière après avoir voulu faire appel à une commission extérieure pour sortir de l'impasse de l'article 24. Il s'est mis à dos toute sa majorité, alors que le passage à tabac du producteur Michel Zecler provoque une tempête politique. La police doit-elle être réformée? Y a-t-il une crise de commandement? On posera la question à notre invité à 18h20, Clément Beaune, secrétaire d'État aux Affaires européennes, avec qui on parlera aussi station de ski et vaccin anti-Covid. 18h30, le débat des grandes voix, et puis 19h15, violence policière, que disent les chiffres et comment s'en sortir? On en débattra avec nos invités. Voilà pour le programme de ces deux heures. D'abord, le journal avec vous, Isabelle Millet. Bonsoir.
Bonsoir, Julien. Bonsoir à tous.
Il est 18h. Bienvenue sur Europe.
Ce sont bien les politiques qui font la loi, mais ce n'est pas la haute fonction publique qui fait la loi et qui, parfois, pour court-circuiter les politiques.
Marche arrière toute, le Premier ministre renonce donc à ce qu'une commission se substitue aux députés pour réécrire le fameux article 24.
Après le tollé au sein de la majorité, on est à deux doigts d'une crise institutionnelle.
Pas de commission donc, mais Gérald Darmanin ne lâche rien. Il ne veut pas retirer cet article.
La délivrance pour les commerçants qui espèrent repartir sur les chapeaux de roue à partir de demain, 7 jours sur 7 jusqu'à Noël.
La délivrance aussi pour les promeneurs et les sportifs. On pourra marcher ou courir jusqu'à 20 km autour de chez soi et pendant 3 heures.
L'appel à la générosité des Français, la collecte annuelle des banques alimentaires a démarré aujourd'hui.
Et puis les Bleus du foot au féminin affrontent l'Autriche ce soir avec qui elles partagent la première place de leur groupe dans la course à l'Euro à 2 matchs de la fin des qualifications. La Bourse de Paris a terminé ce soir en hausse de 0,56% à 5 598 points.
Anissa pour la tendance météo. Bonsoir Anissa.
Bonsoir Julien.
Vigilance demain dans le sud.
Oui, nous avons d'ailleurs dès ce soir 3 départements placés en vigilance orange, pluie, inondation dans le sud. Le week-end s'annonce donc agité sur le golfe du Lion. Ailleurs, le temps sera calme, ensoleillé. Ça sera une belle journée automnale. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et d'abord donc ce revirement. Jean Castex renonce à demander à une commission indépendante de réécrire l'article 24 à la place des députés.
Oui, annonce qui a provoqué un torrent de critiques, en particulier dans les rangs de La République En Marche, la majorité donc. D'où ce rétropédalage de Jean Castex, Jean-Rémy Baudeau.
Oui Julien, on a vécu une journée un peu folle d'un point de vue politique et institutionnel. Reprenons brièvement. Hier soir, le Premier ministre annonce qu'il met en place, sur proposition de Gérald Darmanin, une commission pour tenter de réécrire le très controversé article 24 de la loi Sécurité globale. Une manière de sortir par le haut, sauf que de très nombreux députés ont commencé à publiquement fustiger cette idée. Même le gouvernement se déchire. Il a réussi à se mettre tout le monde à dos, résume sobrement un pilier macroniste. Car selon nos informations, hier soir, même Richard Ferrand, le président de l'Assemblée, en visite à l'Élysée, a alerté Emmanuel Macron sur le sujet. Ce matin, finalement, les deux présidents des deux assemblées s'opposent chacun à leur tour à cette commission, dénoncent une entrave aux droits du Parlement. Matignon répond dans l'après-midi, l'idée est enterrée, la commission ne réécrira pas l'article. Alors tout ça peut paraître technique, Julien, mais il faut comprendre ce qui s'est joué récemment. Cet article 24, il n'était pas dans la loi initialement, il a été rajouté par le ministère de l'Intérieur dans l'idée de soutenir les policiers. Et alors qu'il est décrié, Beauvau pousse Matignon à finalement le réécrire, ce qui en fait est impossible puisqu'un texte voté à l'Assemblée ne peut pas être modifié avant de passer au Sénat. Tout ça, c'est l'illustration d'une semaine folle où, mis en difficulté, le ministre de l'Intérieur a tout fait pour tenter de faire passer son texte. Pour répondre à votre question initiale, l'entourage du patron de l'Assemblée résume ainsi la séquence. Ça n'est pas une reculade de Castex, c'est Darmanin, l'auteur du péché initial.
Bien, merci Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1.
Un rétropédalage salué en tout cas ce soir par Patrick Mignola. Il est le président du groupe Modem à l'Assemblée nationale, membre de la commission des lois.
Moi, je vais simplement faire remarquer une chose simple, c'est que en République française, en démocratie, c'est le Parlement qui fait la loi. C'est l'Assemblée nationale qui doit modifier une loi si elle doit être modifiée, et ce n'est pas un comité d'experts. Voilà, il faut redire les choses simplement. L'Assemblée nationale n'est pas un cas contact qu'il faut isoler quand il y a un problème. Au contraire, ce sont bien les politiques qui font la loi et qui s'appuient sur la haute fonction publique. Mais ce n'est pas la haute fonction publique qui fait la loi et qui, parfois, pour court-circuiter les politiques. L'incident est clos. De toute façon, quand on est dans une famille, il faut savoir laver son linge sale publiquement s'il le faut, parce que c'est les étincelles qui font marcher les moteurs. Il y a eu un peu d'étincelles. Bon, le moteur ne marchera que mieux dans les mois qui viennent.
Voilà, Patrick Mignola, le président du groupe Modem à l'Assemblée, joint pour Europe 1 par Adrien Beck.
Un épisode qui intervient dans un contexte, on le sait, compliqué pour l'exécutif. Après cette grosse bavure policière révélée hier, ce producteur noir de musique tabassé par des policiers à Paris.
Ces derniers ont été convoqués à l'IGPN, entendus sous le régime de la garde à vue pour violences à caractère raciste. Pour trois d'entre eux, ils sont déjà suspendus. Et si ces violences sont avérées, ils seront révoqués, dit le ministre de l'Intérieur.
Après l'évacuation musclée de migrants place de la République à Paris, cette nouvelle séquence risque-t-elle donc de fragiliser le ministre Gérald Darmanin ?
Le ministre de l'Intérieur qui sera auditionné lundi par la commission des lois à l'Assemblée. Louis de Ragnel, ce que vous nous dites ce soir, c'est que Gérald Darmanin assure en tout cas qu'il ne reculera pas sur cet article 24.
Eh bien non, Gérald Darmanin ne reculera pas. En tout cas, c'est ce que nous dit un de ses proches ce soir, pour qui c'est un sujet purement parisien. Il ajoute « attention à l'effet de loupe ». Il a l'opinion publique avec lui. Les sondages montrent que les Français soutiennent cet article 24. Même s'il est attaqué de toutes parts, à commencer par son propre camp, selon nos informations, Gérald Darmanin entend bien poursuivre sa stratégie de défense de sujets sensibles pour continuer de faire bouger les lignes. Et son entourage rappelle aussi qu'il a le soutien d'Emmanuel Macron. Si tous à l'Élysée ne sont pas de cet avis, plusieurs conseillers du président considèrent qu'à terme, on retiendra, malgré ses maladresses et ses erreurs, eh bien que Gérald Darmanin a tenu la ligne qui lui a été fixée et qu'il se bat. Le sujet concerne du coup, enfin et surtout, Emmanuel Macron et sa stratégie pour la prochaine campagne présidentielle. Le président le sait, son banc de touche est bien maigre pour essayer de trouver un éventuel remplaçant de Gérald Darmanin. D'autant que, venu de la droite, son ministre de l'Intérieur est jusqu'à aujourd'hui une pièce importante de la partition présidentielle pour essayer de continuer de siphonner son ancienne famille politique.
Eh bien, merci Louis de Ragnel du service politique d'Europe 1.
Le CCIF, le collectif contre l'islamophobie, qui était, souvenez-vous, menacé de dissolution par le gouvernement, annonce ce soir qu'il s'est autodissous.
Oui, il avait été accusé par le ministre de l'Intérieur après l'assassinat de Samuel Paty d'être une officine islamiste œuvrant contre la République.
L'affaire Carlos Ghosn suit à présent l'ancienne garde des Sceaux Rachida Dati, placée sous le statut de témoins assistés.
Il s'agit de l'enquête sur des prestations de conseil auprès de l'ancien PDG de Renault-Nissan. Le procès de l'attentat avorté du Thalys, suspendu dans l'attente des résultats d'un test Covid. L'un des prévenus est en effet malade. Et puis notez que le Conseil d'État a suspendu la possibilité de recourir à la visioconférence pour les procès d'assises sans l'accord des accusés. Possibilité instituée par une ordonnance controversée du gouvernement qui voulait que la justice tourne malgré la pandémie.
19h06, 19 km et 2 heures en plus qui font toute la différence.
Et oui, demain les Français ne devront plus compter leurs pas ou les minutes lorsqu'ils sortiront de chez eux. On pourra pousser jusqu'à 20 km de son domicile. Des sorties qui pourront aller jusqu'à 3 heures. Et pour Valentine, parisienne, qui avait des fourmis dans les jambes, eh bien ça change tout.
Oui, alors ça m'inspire juste pour aller me promener dans des espaces verts un peu plus grands que ceux qu'on trouve dans Paris intramuros, quoi. Donc pourquoi pas aller à Saint-Rémy-les-Chevreuses, etc., en dessous de 20 km, quoi, pour se faire des grosses balades le samedi.
Un peu vivifiant.
Voilà, c'est ça. Juste oxygéner un petit peu plus que bah, ce qu'on peut faire ici dans Paris, quoi. Parce qu'il y a des parcs qui sont accessibles, mais on est très nombreux, quoi. En fait, le week-end, quand on va se promener au Montsouris, par exemple, on est très nombreux, donc c'est pas... Parce que je travaille auprès des personnes âgées, c'est important que je ramène pas le virus à l'intérieur des locaux, quoi.
Au micro Europe 1 de Pierre Herbulot.
Valentine, et donc.
Valentine. Et ce qui change aussi à partir de demain, c'est qu'on va pouvoir de nouveau faire ses courses dans les commerces dits non essentiels.
Oui, branle-bas de combat avant la réouverture demain, entre excitation et précaution pour les commerçants. Emmanuel Dutheil.
Ah, on est prêt, mais tellement prêt, tellement enthousiaste.
Cet enthousiasme, c'est celui de Julien Paulet. C'est le président de Promode et comme chez tous les commerçants, tout est prêt pour accueillir les clients et surtout pour les compter, pour respecter la jauge de un client par 8 mètres carrés.
On aura la jauge qui sera affichée à l'entrée des magasins et puis ce sera la responsabilité de nos équipes magasins de compter. Et dans certains magasins, nous avons des vigiles à l'entrée et donc ce sera leur responsabilité à eux. Ça concernera les magasins les plus critiques en termes de trafic.
Chez Mage, les équipes sont de retour depuis ce matin en magasin, car c'est une réouverture quand même un peu particulière qu'il a fallu préparer, selon la directrice générale de la marque de vêtements, Isabelle Guichot.
La cliente qui va arriver en magasin demain matin, elle a envie de voir des nouveautés, elle n'a pas envie de voir les choses qu'elle a vues préalablement. Elle a envie de voir quelques bonnes affaires, quelques coups de cœur du moment. Donc effectivement, on a dû repenser globalement l'équilibrage de nos collections, on a dû repenser à injecter de la nouveauté, on a dû repenser à remanier un peu l'agencement de nos magasins. Donc ça a été, c'est pas juste on ouvre la porte et on accueille les clients.
Tous, hein, en tout cas, ont un espoir que nous ayons envie de nous faire plaisir pour Noël après une année si particulière et du coup peut-être que certains dépensent un peu plus que prévu. Un moyen pour tous ces commerces de sauver un tout petit peu leur année.
Et on suivra ça bien sûr. Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
18h10, la suite de votre journal avec Isabelle Millet. Cette année encore, plus que d'habitude, les banques alimentaires ont besoin de vous, ont besoin de nous. Elles ont lancé aujourd'hui leur traditionnelle collecte nationale.
Oui, pour venir en aide aux plus démunis, vous connaissez le principe, vous allez faire vos courses et vous achetez en plus de votre plein habituel un paquet de pâtes, une boîte de conserve, du chocolat par exemple, et vous les remettez à la sortie aux bénévoles des banques alimentaires.
Des petits gestes qui, additionnés les uns aux autres, vont permettre de constituer des stocks qui ont baissé de 20% en cette année de crise sanitaire.
Pierre Herbulot, vous avez suivi l'une des équipes dans un supermarché du 14e arrondissement de Paris. Et la bonne nouvelle, Pierre, c'est qu'apparemment, les Français, cette année, semblent généreux.
Oui, dans le supermarché où je me trouve, les grands sacs prévus par la banque alimentaire se remplissent de dons à vue d'œil.
De la boîte de ravioli,
des pâtes, du thon,
du haricot, des céréales, du riz,
du chocolat,
du poisson en conserve.
Vincent porte le gilet rouge des bénévoles. Il multiplie depuis ce matin les allers-retours entre le supermarché et le centre de tri.
Ça démarre très bien. On est déjà à plus 50% par rapport à l'année dernière, le même jour. Et le vendredi est un grand jour pour la collecte alimentaire. Donc là, ça démarre très très bien. On est bien parti.
Alors, ce n'est que le premier jour. Ce n'est qu'un point de collecte. Il faut donc relativiser. Mais c'est vrai que les donateurs comme Aurélie semblent avoir conscience de l'urgence de la situation avec la crise sanitaire.
Je vais donner un petit peu plus et c'était important de participer à cette collecte. Oui, cette année, ça a une résonance particulière. On sait que la pauvreté explose et on voit bien que dans les associations, il y a de plus en plus de bénéficiaires.
On fera les comptes lundi matin. D'ici là, Laurence Champier, directrice générale du réseau des banques alimentaires, n'a qu'un seul message à faire passer.
Donner, 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 la solidarité, c'est ce qui doit rester dans cette crise et qu'on se mobilise tous pour venir en aide aux plus précaires.
Et pour ceux qui évitent les magasins, cette année, la collecte se fait aussi en ligne sur le site monpaniersolidaire.org.
Merci Pierre Herbulot, devant un supermarché parisien.
Reprise des discussions commerciales aujourd'hui sur le Brexit pour éviter une sortie sans accord.
Le négociateur en chef de l'Union européenne, Michel Barnier, se rend à Londres ce soir. Il y a urgence, il ne reste que très peu de temps à Londres et à Bruxelles pour s'entendre sur un accord qui entrerait en vigueur le 1er janvier.
La Russie annonce avoir commencé à vacciner ses militaires contre le Covid.
Et avec le fameux vaccin Sputnik V, vous savez, qui est actuellement en phase 3 des essais cliniques et qui est efficace, selon ses concepteurs, à 95%. Le début ce soir de la 12e journée de Ligue 1 de foot. Rennes reçoit Strasbourg à partir de 21h.
Du foot féminin également ce soir, Isabelle.
Et oui, l'équipe de France affronte l'Autriche à Guingamp. Match qualificatif pour l'Euro 2022. Match très important donc. Une victoire ce soir et c'est bon pour les Bleus, Cyril de la Morinerie.
Oui, c'est le match le plus important des Françaises depuis leur élimination en quart de finale du Mondial 2019 face aux États-Unis. Les Bleus, numéro 3 au classement FIFA, sont favorites. Elles n'ont pas encaissé le moindre but depuis le début de ces éliminatoires de l'Euro. Elles n'ont jamais perdu contre les Autrichiennes depuis leur première confrontation en 1999. Alors c'est vrai, il y a eu des tensions au sein de l'équipe, mais les joueuses se sont parlé en début de semaine à Clairefontaine. La sélectionneuse Corinne Diacre espère qu'elles mettront de côté leur vague à l'âme.
Si on doit venir en reculant, il ne faut pas venir. Voilà. L'équipe de France, il y a plein de gens qui aimeraient y être. C'est non seulement un honneur, mais c'est surtout un devoir. Et aujourd'hui, on a une qualification à aller chercher pour l'Euro 2022. On doit être concentré sur ça.
Et c'est aussi le message délivré par Noël Le Graët, le président de la fédération qui habite à Guingamp, est venu hier à l'hôtel des joueuses à Saint-Brieuc pour leur demander de gagner. Pour notre consultant Rénal Pedros, les Françaises ont le talent pour s'imposer.
L'équipe de France va se qualifier. Parce que l'adversité n'est pas aussi énorme que ça. Mais c'est sûr qu'après, il va falloir régler les choses.
Malgré tout, attention, il y a plusieurs absentes du côté des Bleus, notamment la meilleure buteuse de l'histoire de l'équipe de France, Eugénie Le Sommer. Et l'Autriche s'est montrée très accrocheuse au match aller en décrochant donc un match nul 0-0.
Allez les Bleus, et merci Cyril de la Morinerie. Coup d'envoi 21h.
Allez Isa, à tout à l'heure, 18h30 et 19h pour le journal. 18h14, un coup d'œil au temps avec Anissa qui nous a rejoint et qui nous annonce que l'épisode pluvieux dans le sud, il va se poursuivre.
Oui, nous avons actuellement, Julien, trois départements placés en vigilance orange pour pluie inondation. Il s'agit des Pyrénées-Orientales et des deux départements Corse. Et effectivement, dans ce secteur, le temps est agité. Et bien ce soir, cette nuit et demain, nous aurons toujours un temps agité sur les Pyrénées-Orientales, sur l'Aude et l'Est de la Corse, car les pluies deviendront orageuses demain. Sur la Provence, le Languedoc et l'ouest de la Corse, là le ciel est très nuageux mais les pluies seront plus faibles. Dans l'après-midi, les pluies vont se renforcer, ça va vraiment devenir très agité. Le vent d'autant se calme mais attention, c'est le vent d'Est cette fois-ci qui se lève et qui va souffler fort sur les côtes varoises. Sur le reste du pays, pas mal de grisailles le matin et du soleil l'après-midi. C'est une belle journée. Les températures dégelées sur le nord-est avec -2 à Épinal, -1 à Strasbourg, 0 à Clermont-Ferrand, 3 à Paris et 12 à Marseille. Et puis au meilleur de la journée, nous aurons 6 à 13 degrés au nord avec 11 degrés à Paris et 13 à 18 sur la moitié sud.
Merci Anissa, à tout à l'heure.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et ce soir, notre invité à 18h18, il est en charge des affaires européennes au sein du gouvernement, ancien conseiller Europe d'Emmanuel Macron, fin connaisseur des arcanes de Bruxelles. Bonsoir Clément Beaune.
Bonsoir Julien Bugier.
Merci d'avoir accepté notre invitation. On va évidemment parler avec vous de la stratégie anti-Covid de l'Europe, c'est important. D'abord, question d'actualité avec le faux pas de Jean Castex qui a réussi, fait inédit, à se mettre à dos sa majorité en missionnant une commission extérieure pour réécrire le fameux article 24 qui fait polémique. C'est une atteinte aux missions du Parlement, lui a dit Richard Ferrand, le président de l'Assemblée. Alors ce soir, Jean Castex fait marche arrière. Est-ce qu'il n'est pas temps de siffler la fin de la partie et de supprimer cet article 24 qui fait tant de bruit ?
Écoutez, justement, je ne voudrais pas ajouter à une confusion ou une polémique. Il y a une procédure parlementaire qui va se poursuivre. C'est ce qui a été rappelé dans les échanges d'aujourd'hui. Le texte doit encore passer au Sénat, peut-être revenir à l'Assemblée nationale. Et le Premier ministre l'a rappelé cet après-midi, après un échange avec les présidents de chambre, avec un ensemble de parlementaires. Pour pas qu'il y ait d'ambiguïté, c'est le Parlement, il faut être très clair là-dessus, qui va s'occuper, comme c'est son rôle, sa fonction, de voter la loi, éventuellement de l'amender sur cet article ou sur d'autres dispositions dans les prochaines semaines. Et il faut respecter ce travail parlementaire. Le Premier ministre a clarifié les choses.
C'est ce qu'a dit Richard Ferrand au Premier ministre, hein, d'ailleurs.
C'est ce qu'a dit Richard Ferrand, et le Premier ministre en est convenu. Je crois qu'il l'a clarifié. S'il y avait besoin, il a écrit un nouveau courrier. Je crois que les correspondances sont maintenant claires et abondantes. L'initiative que le Premier ministre avait prise, il a souhaité qu'il y ait une commission, il en a clarifié le périmètre cet après-midi, qui travaille de manière plus générale, parce qu'on voit bien qu'il y a une sensibilité, une polémique dans la société sur les images, la diffusion des images et l'équilibre entre une nécessité absolue, on l'a encore vu ces derniers jours, d'informer, de filmer parfois, et la protection de l'identité, parfois de la famille, des forces de l'ordre, qui doit aussi être respectée. C'est cet équilibre difficile qu'on recherche sur le fond.
Mais c'est vrai qu'on a frôlé la crise institutionnelle, on aurait pu s'en passer, on a envie de dire.
Écoutez, on peut toujours se passer d'une difficulté ou d'une crise, mais gouverner, c'est aussi l'affronter. Et donc, c'est comme ça. Il y a eu, je crois qu'il ne faut pas non plus surinterpréter ou surjouer les choses. Il y a eu une journée qui est difficile. Maintenant, on avance. Il faut avancer sur le fond, sur les questions qui se posent à travers cet article 24 et puis la question de la liberté d'information plus généralement. C'est ça qu'il faut préserver sur le fond. Le Parlement fera son travail. Alors, et il y aura une réflexion plus large à côté.
Clément Beaune, je voudrais également vous entendre, évidemment, sur les violences policières de ces derniers jours. Faut-il, je ne reviens pas sur la vidéo, chacun l'a vu, on en a parlé dans le journal, faut-il remettre en cause la hiérarchie policière selon vous ? Je vous pose la question, car vous êtes un proche d'Emmanuel Macron. En 2017, le candidat Emmanuel Macron disait « Ce que je ne comprends pas, c'est que l'on ne mette pas en cause la hiérarchie policière quand il y a de manière évidente un problème. Nous y sommes et rien ne se passe. »
Écoutez, d'abord, rien ne se passe, c'est pas vrai. Le ministre de l'Intérieur était très clair dès le jour même où ces images affreuses ont été vues. Et je veux d'ailleurs, si vous me permettez, penser d'abord, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé, à la victime de ces faits, de cette action qui a choqué, bouleversé beaucoup de gens, le président de la République lui-même, comme il l'a évoqué.
C'est important de parler de la victime, parce qu'on en a peu parlé ces derniers jours, et notamment Gérald Darmanin, qui n'a pas eu un mot pour lui hier sur France 2.
C'est pas à moi de commenter, c'est le ministre de l'Intérieur, puisque vous m'interrogez sur les réactions. Il a été très clair, dans son rôle de patron des forces de l'ordre, pour expliquer qu'il y aurait d'abord, c'est normal, une investigation précise. Les faits, on les voit sur les images, mais il faut quand même creuser les choses. Tout le monde a droit à une investigation claire et complète. Et le ministre de l'Intérieur a aussi été très clair, c'est la position du gouvernement, nous serons intraitables. Quand il y a des actes qui manifestement ne sont pas des actes de police, mais des actes de délinquance, qui ont été commis par sans doute des forces de l'ordre sur ces images et dans ce cas précis, il faut les sanctionner. Et cette responsabilité, puisque vous l'évoquez, elle a toujours été notre engagement et notre marque de fabrique et de fermeté. Il n'y aura aucune complaisance vis-à-vis d'un acte isolé et spécifique, mais qui est affreux, condamnable et qui devra l'être.
Je vous pose la question du contrôle et de la hiérarchie parce que vous êtes aux affaires européennes. Donc on imagine que vous regardez aussi ce qui se fait à l'étranger. Et en Angleterre, par exemple, le contrôle de la police des polices, l'équivalent de l'IGPN, c'est une commission citoyenne qui s'en occupe. Est-ce que ça ne serait pas une bonne piste de réflexion pour réformer, chez nous en France, le fonctionnement et le contrôle de la police ?
Vous savez, en France, c'est vrai, c'est un sujet qu'on n'a jamais su traiter de manière complète et apaisée. Et on est toujours dans un moment de réaction à chaud, face à une situation très difficile, où vous n'avez que de mauvais choix, si je puis dire. Tout justifier ou tout jeter dans le même sac et à la poubelle. Je ne veux pas tomber dans ce travers qui consisterait à dire que c'est la police en général qui est entachée par cette affaire, que ce serait injuste et ce ne serait pas républicain. En revanche, moi, je suis favorable pas ma fonction directe, mais en tant que citoyen, en tant que responsable politique, je suis favorable à ce qu'on ouvre des pistes pour éviter de se retrouver dans cette impasse et qu'on réfléchisse peut-être à des modalités de contrôle, des modalités de vérification, d'inspection, qui soient différentes. Un mouvement politique pour lequel j'ai une sympathie, une proximité, Territoire de Progrès, a fait déjà un certain nombre de propositions sur ces modalités de contrôle. Ce sont des pistes. Ouvrons ce débat, n'ayons pas peur de l'ouvrir, parce que je crois que là aussi, c'est notre marque de fabrique de ne pas se laisser enfermer dans l'actualité du moment, aussi terrible soit-elle, mais d'avoir une réflexion de fond. Et ouverte.
Merci pour ce message de sincérité. Alors la crise sanitaire, on y vient. D'abord sur les stations de ski, Clément Beaune. Comment se fait-il que l'Europe n'arrive pas à se mettre d'accord sur une doctrine commune ? La France interdit les remontées mécaniques, le Premier ministre l'a rappelé jusqu'à début janvier au moins, mais pas la Suisse ni l'Autriche. Quant à l'Espagne, elle devrait rouvrir les stations puisque ce sont les régions qui décident. Ça veut dire qu'on va faire 30 km de plus si on veut skier, et on pourra skier dans un pays étranger, ce qui évidemment a des implications économiques pour l'industrie du ski français.
Ah, vous avez raison, mais on est parfois un peu paradoxaux, parce que si je vous avais dit il y a quelques semaines c'est l'Europe qui va décider pour l'ouverture des stations de ski, tout le monde aurait rigolé. et vous avez cité d'ailleurs
c'est
cet exemple.
C'est peut-être le cas, voilà. C'est vrai.
Donc, mais j'y viens. Dans beaucoup de pays, en Suisse, en Espagne, en Autriche, ce ne sont parfois pas les gouvernements nationaux eux-mêmes. Donc ce qu'on reproche à l'Europe, d'une certaine façon, on devrait commencer par en faire le reproche aux gouvernements nationaux dans certains pays qui n'ont pas de compétences, c'est comme ça, ils sont organisés comme ça. En Suisse, ce sont les cantons qui décident, par exemple. En Espagne, ce sont les communautés régionales. Bon, néanmoins, ça ne suffit pas de faire ce constat. On a lancé pour la première fois une coordination européenne à l'initiative du président de la République. Au moment où je vous parle, le Premier ministre Jean Castex échange avec le Premier ministre italien. Et d'ores et déjà, si la chancelière Merkel et le ministre-président de Bavière en Allemagne, si le Premier ministre en Italie ont annoncé qu'ils étaient plutôt sur une ligne de fermeture et de fermeté, c'est aussi parce qu'on a initié cette coordination européenne et pour éviter qu'il y ait une concurrence
injuste. Donc vous
pensez
qu'on peut réussir à tordre le bras aux Suisses et aux Autrichiens?
Je ne dirais pas tordre le bras. Nous avons eu encore aujourd'hui, là aussi par le Premier ministre, une discussion avec la présidente suisse. J'espère qu'on peut y arriver, mais parfois, encore une fois, ce ne sont pas toujours les gouvernements nationaux qui décident. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait? On prend nos propres mesures au regard des informations sanitaires. C'est ce qu'a commencé à annoncer le président et le Premier ministre cette semaine. Et puis on coordonne pour éviter qu'on ait une situation ubuesque, où effectivement d'un côté de l'autre...
C'est une distorsion de concurrence, hein, d'une certaine manière.
C'est une distorsion de concurrence, oui, qui jusque-là ne posait pas de problème, puisqu'on n'a jamais été dans cette situation où la crise sanitaire nous imposait ces réflexions. Mais donc on crée, en marchant, une coordination européenne qui n'existait pas et qui a déjà permis d'aligner nos positions avec l'Allemagne et l'Italie. Ça n'est pas si mal et nous continuons parce que le Premier ministre a à cœur, évidemment, que les professionnels de ce secteur soient protégés.
Clément Beaune, sur les vaccins, là encore, pardon de vous poser la question comme ça, mais pourquoi ne pas avoir harmonisé nos stratégies de vaccination avec nos voisins? Je crois que le défi est absolument colossal. L'Union a précommandé, dites-moi si je me trompe, auprès de 6 différents laboratoires, jusqu'à quasiment 2 milliards de doses, dont 15% sont pour la France. Les chiffres sont bons?
Oui, alors là aussi, il faut être juste, si vous me permettez. Vous parlez de la stratégie vaccinale. Commençons par le commencement. Les vaccins eux-mêmes, nous les commandons dans un cadre européen. Ça n'existait pas du tout il y a encore quelques semaines. On a créé une négociation européenne pour avoir des contrats moins chers et surtout pour avoir des contrats qui couvrent toute la population européenne. Imaginez ce que vous me dites pour les stations de ski, si on l'avait vécu pour le vaccin, où il y avait le vaccin, il y aurait eu le vaccin en Italie et pas en France, ou l'inverse, ça n'aurait pas été une très bonne image de l'Europe. Donc
vous,
on a le vaccin.
Vous savez que les Français ont une attente forte, là, pour le coup, sur l'Union européenne, parce que c'est vrai que c'est la première grande crise sanitaire que traverse l'Union européenne, et on s'attendait à ce que l'Union européenne soit peut-être plus unie pour faire face à cette crise sanitaire qu'elle ne l'est aujourd'hui.
Il y a des domaines où ça n'a pas bien marché, mal marché, il faut le dire, et puis il y a des domaines où ça a bien marché. Le vaccin est un domaine où ça a bien marché. À l'initiative de la France, d'ailleurs, je veux dire à tous ceux qui nous écoutent, il y a effectivement plus de 1,5 milliard de doses. Des vaccins des différents laboratoires qui ont trouvé des candidats vaccins sérieux, tous ceux dont on a parlé, Pfizer, Moderna, bientôt j'espère Sanofi et d'autres. On a réservé tous ces vaccins, on les aura vite, c'est une question de semaines, après homologation par une autorité là aussi européenne, parce qu'il faut avoir les vaccins mais il faut qu'ils soient sûrs et vérifiés. Oui. Et c'est financé d'ailleurs en très large partie par le budget de l'Union européenne.
Mais c'est chaque pays qui décidera de sa stratégie pour la vaccination.
Justement, nous avons initié maintenant une coordination sur la stratégie elle-même et nous sommes notamment avec l'Allemagne pour que les deux grands pays européens les plus proches soient le mieux coordonnés possible. C'est ce que fait Olivier Véran et ce que je fais avec lui quasiment tous les jours. Nous sommes coordonnés avec l'Allemagne pour définir les mêmes priorités, les mêmes publics prioritaires. Nous le ferons dans les quelques jours ou semaines qui viennent, nous l'annoncerons. Mais là aussi, effectivement, nous cherchons une coordination européenne. Je veux quand même dire, pour être concret, le plus important, c'est néanmoins qu'on ait tous le vaccin.
Et on commencera quand la campagne de vaccination en France pour terminer ?
Dès que c'est possible. Et
nous, le président a dit fin décembre, début janvier.
Oui, le président a donné...
C'est demain.
Oui, c'est demain. C'est très rapide en tout cas. On a vu qu'il y avait de premiers vaccins qui sont manifestement prêts.
Oui.
Ils doivent être encore une fois validés par les autorités sanitaires pour être sûrs. Et on doit pouvoir être en situation de commencer, effectivement, dans la période des fêtes ou un peu plus tard, en tout début d'année. Mais c'est une question maintenant de semaine, donc c'est imminent.
Bien, merci Clément Beaune d'avoir répondu à nos questions ce soir dans Europe Soir.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugy.
Avec le rappel des titres à 18h30, Isabelle Millet.
Et Matignon qui calme le jeu. Finalement, la commission indépendante ne sera pas chargée de réécrire l'article 24 de la proposition de loi Sécurité Globale. Les services du Premier ministre précisent que la réécriture d'une disposition législative ne saurait relever que du Parlement. Et Jean Castex était la cible de toutes les critiques depuis ce matin. Tour à tour, Richard Ferrand, président de l'Assemblée, Gérard Larcher, président du Sénat, lui avait demandé notamment de renoncer. Le CCIF, le collectif contre l'islamophobie qui était menacé de dissolution par le gouvernement, annonce ce soir qu'il s'est autodissous, accusé par le ministre de l'Intérieur après l'assassinat de Samuel Paty d'être une officine islamiste œuvrant contre la République. Deal or no deal, le négociateur européen Michel Barnier de retour à Londres ce soir, discussion de la dernière chance. Le début de la 12e journée de Ligue 1 de foot, Rennes reçoit Strasbourg à partir de 21h. Et puis du foot féminin également, l'équipe de France affronte l'Autriche à Guingamp, match qualificatif pour l'Euro 2022.
Merci Isabelle, à tout à l'heure à 19h. La météo avec Anissa qui nous a rejoint. Trois départements placés en vigilance orange demain.
Oui, il s'agit des Pyrénées-Orientales et les deux départements Corse placés en vigilance orange pour pluie, inondation. Ce soir, cette nuit et demain, sur le Languedoc, sur l'Aude, sur l'Hérault et sur l'est de la Corse, les pluies sont soutenues et elles vont s'intensifier, particulièrement demain après-midi. Des pluies très souvent accompagnées de coups de tonnerre. Le vent d'autant se calme, mais attention, c'est le vent d'est qui prend le relais. Le vent se lève et il va souffler fort sur le Var et la Corse demain après-midi. Partout ailleurs, et bien après la dissipation des brouillards matinaux, c'est un scénario classique, le soleil va briller. C'est une belle journée d'automne qui nous attend sur une grande partie de la France, sauf le bord de la Méditerranée, vous l'avez compris. Les températures, un grand écart demain matin, moins 2 à 13 degrés, moins 2 pour Épinal, 13 pour Ajaccio et 5 à 19 degrés demain après-midi.
Merci Anissa, à tout à l'heure.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugy.
18h32, le débat des grandes voix du vendredi avec ce soir à mes côtés l'enseignante et essayiste Barbara Lefebvre. Bonsoir Barbara.
Bonsoir.
Elsa Conessa, bonsoir Elsa, bonsoir. Rédactrice en chef aux Échos. Et puis Guillaume Tabar, bonsoir Guillaume.
Bonsoir.
Rédacteur en chef et éditorialiste politique au Figaro. Alors ce soir, on parle évidemment de ce débat sur la violence policière après cette vidéo de passage à tabac d'un producteur noir par trois policiers qui suscite une immense émotion. Sauf que maintenant, la crise devient politique également. La majorité se divise avec en toile de fond l'article 24 qui cristallise la fronde. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est accusé de mettre de l'huile sur le feu. Jean Castex a déclenché la colère de Richard Ferrand, patron de l'Assemblée nationale, en annonçant cette fameuse commission extérieure pour réécrire cet article 24. Alors ce soir, le Premier ministre fait marche arrière, mais le mal est fait. Écoutez par exemple Hugues Ranson, le vice-président LREM de l'Assemblée nationale.
On est en plein débat parlementaire sur un texte et je crois qu'il n'appartient pas à une commission administrative de contourner l'activité des représentants du peuple et les parlementaires, fussent-ils de la majorité, veulent remplir leur mission de représentants du peuple.
Deux crises coup sur coup, politique, sécurité. Sur la première d'abord, la crise institutionnelle, Guillaume Tabar, est-ce que c'est une faute politique de la part de Jean Castex?
On a l'impression que l'exécutif a vraiment joué un épisode des branquignoles. Parce que se tirer d'un mauvais pas en mettant en place une commission, c'est une des ficelles les plus classiques, les plus usées, les plus pratiquées de la vie politique. Mais en général, quand on fait ça, bon, ça ne trompe personne, sauf éventuellement celui à qui on confie la mission. Mais en général, le but d'une commission, c'est de se débarrasser d'un problème, pas d'en créer un autre.
Oui.
C'est d'apaiser le jeu, pas de remettre de l'huile sur le feu. Or là, en créant cette commission, ils ont précisément remis de l'huile sur le feu. Pour une raison toute simple, c'est que il, alors qui est le il? Est-ce que c'est Emmanuel Macron? Est-ce que c'est Jean Castex? Est-ce que c'est Gérald Darmanin? En tout cas, c'est l'exécutif dans son ensemble, a oublié ses leçons de première
Parce
année
que c'est
de,
un d'instruction
démocratie,
civique. Hein, c'est confier une commission extérieure le droit, en quelque sorte, de réécrire un article qui est normalement écrit par le Sénat ou par l'Assemblée nationale. Bah, d'ailleurs, le Premier ministre a réussi l'incroyable fait politique de se mettre à dos toute sa majorité, le patron de l'Assemblée nationale et la Chambre du Sénat. Elsa connaît ça.
Oui, juste par rapport à ce que vous disiez à l'instant, évidemment, c'est une tendance dans ce gouvernement à vouloir contourner le Parlement, mais
Il y a aussi une forme d'hypocrisie de la part des députés. Je veux dire, chaque année, quand on vote le budget, il y a des articles de loi sur des mesures fiscales qui sont écrites intégralement par des fédérations professionnelles. Enfin, c'est quelque chose qui est courant. Les services de l'Assemblée l'admettent assez volontiers, d'ailleurs, parce qu'il y a des expertises sur certains domaines qui, bah, voilà, que les services de l'Assemblée n'ont pas, parce que il y a plus de moyens, c'est plus rapide, c'est pas toujours mal écrit d'ailleurs, et puis surtout, c'est voté après. Les textes sont votés. Mais le fait qu'une commission se réunisse pour proposer une réécriture de l'article, on peut en discuter, mais en soi, ça me paraît pas être quelque chose d'absolument révolutionnaire. Moi.
Barbara Lefebvre.
Le choix de celui qui allait diriger cette commission, c'était aussi une façon d'organiser l'enterrement de cet article 24, puisque c'est un des coprésidents de la CNCDH qui avait signifié son hostilité et qui considérait que les droits et libertés fondamentales avaient été bafouées dans cet article 23 et même d'ailleurs 24 pardon, et d'ailleurs même plus largement dans le reste du texte. Donc c'est une façon un petit peu à l'ancienne hein, pour un régime qui se prétend être tellement novateur. Ce sont des petites manœuvres politiciennes très classiques. Mais hélas, qui ne fonctionne plus pour enterrer un article. Et on sait que Gérald Darmanin, lui, continue d'insister pour que son article 24 se maintienne. Donc là, on va avoir au plus haut niveau de l'exécutif des conflits qui peuvent, à un moment ou à un autre, se conclure par la démission ou l'exclusion du gouvernement d'un des membres si cette question de l'article 24 n'est pas résolue rapidement.
Oui, et pour terminer sur Jean Castex, on se souvient qu'en arrivant, il avait quand même dit « je veux être le leader de la majorité ». Il a réussi à se mettre tout le monde à l'eau. Alors, ça, je ne sais pas si ça laissera des traces, mais en tout cas, ça crée quand même une espèce de précédent, Guillaume Tabar.
Oui, puis c'est le révélateur. C'est-à-dire que, bien sûr, cet épisode-là, il est embêtant parce que c'est un vrai raté politico-institutionnel. Mais si la crise a pris une telle ampleur, si de Richard Ferrand au président de groupe, au président de commission, au député...
Président du Sénat, Gérard
président
Larcher
du Sénat, aussi. Oui, ça, le président du Sénat, il est dans l'opposition. Bon, justement, c'est aussi l'un des problèmes, c'est qu'habituellement, quand on crée une polémique avec l'opposition, j'allais dire, on est dans le jeu normal, et quelque part, un pouvoir a besoin aussi de se confronter à une opposition. Mais lorsque l'on fait sauter la grenade dans son propre camp, là, c'est vraiment un raté.
D'autant plus qu'on avait demandé aux députés La République En Marche de voter cet article 24, alors que certains, même beaucoup, y étaient hostiles, avaient demandé des réécritures. On leur avait dit oui, mais enfin, votez-le quand même. Ils l'ont voté. Ensuite, on leur dit non, mais finalement, c'est mal fait. Et on va demander à quelqu'un d'extérieur de le refaire à votre place parce que vous êtes vraiment trop incompétent. Là, il y a vraiment une problématique aussi de considération vis-à-vis de ces députés dont on ne peut pas dire autre chose que ce sont véritablement, en tout cas, qui sont considérés comme ça par l'exécutif, comme des députés Playmobil, juste là pour voter des lois.
On parle de la seconde crise maintenant, peut-être la plus importante parce qu'elle va se prolonger dans la durée. Gérald Darmanin, après cette nouvelle vidéo de violence policière. Restez avec nous, 18h38.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h39, le débat des grandes voix du vendredi suite avec ce soir à mes côtés Barbara Lefebvre, Elsa Conessa du journal Les Échos et Guillaume Tabar, rédacteur en chef et éditorialiste politique au Figaro. Alors on s'intéresse donc à la réponse du gouvernement après cette vidéo de passage à tabac de ce producteur. Ça s'est passé dans le 17e arrondissement. Vous avez sans doute vu la vidéo. Elle a été vue des millions de fois et elle est passée évidemment hier dans les journaux télévisés. Voici ce qu'a dit hier le ministre Darmanin sur le plateau du 20h de France 2.
Je voudrais dire aux policiers et aux gendarmes que moi je les soutiens, mais lorsqu'il y a des gens qui déconnent, ils doivent quitter l'uniforme de la République, ils doivent être sanctionnés, ils doivent être punis par la justice.
Quand il y a des gens qui déconnent, a dit le ministre de l'Intérieur, colère ce matin sur l'antenne de BFM TV de l'avocate du producteur Michel. Écoutez.
S'il considère que les policiers ont déconné, permettez-moi de dire que lui, excusez-moi la liberté d'expression, j'utilise ces mots de la même manière, ses propos sont dégueulasses.
Voilà, ses propos sont dégueulasses. Guillaume Tabar, réaction.
Oui, je pense qu'on fait un peu un mauvais procès sur... sémantique. Je veux dire que Gérald Darmanin, et c'est pas un hasard, choisit de parler comme on parle entre nous.
Oui.
Bon, donc il emploie des gros mots, appelons ça comme ça. Bon, il dit déconner.
Mais pardon, déconner, on dit ça d'un gamin de 14 ans qui fait sauter un pétard dans une boîte aux lettres, non ?
Pas que. Déconner, c'est quand même fort. Je pense. Enfin, c'est pas vraiment un compliment qui est fait. Je pense qu'en disant ça, il ne voulait pas minorer ce qu'ont été fait par les policiers qu'on fait ça dans le 17e. Bon, voilà, donc, après, est-ce que c'est le bon mot ? Ça, c'est son problème. Mais,
Est-ce que c'est une faute de ne pas avoir eu un mot pour la victime ?
Écoutez, je ne sais, pour être franc, je n'ai pas entendu toutes ces déclarations. Je ne sais pas s'il n'a pas eu de mots pour la victime. Moi, ce que j'entends aussi...
En tout cas, hier soir, sur le plateau du 20h de France 2, c'était un peu la grande explication.
Oui,
il n'a pas parlé de la victime.
En tout cas, il y a une condamnation plus qu'explicite quand même de ce qui était fait, et ce qui était normal, ce qui était nécessaire, ce qui était attendu. Je crois qu'il ne faut pas non plus oublier, parce que le point de départ du débat et de cette fameuse article 24, c'est ça aussi, c'est aussi de parler du traumatisme vécu et subi au quotidien par des policiers. Le fait qu'il y ait cet acte absolument abject commis ne supprime pas non plus les caillassages de voitures de flics, le fait que des policiers qui ont peur d'être pris à partie, y compris jusque chez eux, et que le point de départ de ce fameux article 24, c'était de les protéger contre ça.
Mais vous comprenez bien que ça porte préjudice aussi aux policiers, ces actes-là.
Précisément, moi je ne pense pas qu'ils ont déconné.
Il
n'y
a pas
de
hiérarchie de l'émotion à faire, je pense,
non,
dans ce.
Je pense qu'ils
n'ont
pas déconné, ils ont déshonoré précisément cette immense institution, et cette institution fondamentale, non pas seulement d'une république, mais d'une nation, qui est l'institution de la police, du maintien de l'ordre. Donc, effectivement, d'abord, le terme me gêne, cette vulgarité dans la bouche d'un ministre, personnellement, ça me dérange, en tant qu'enseignante notamment, où il faut une certaine exemplarité des personnes publiques, me semble-t-il. On n'accepterait pas, par exemple, qu'un enseignant parle comme ça devant ses élèves, donc encore moins un ministre devant le peuple souverain. Donc déjà, on avait eu la drogue, c'est de la merde, maintenant on a les flics qui déconnent. Ce serait déjà bien de corriger un petit peu le vocabulaire et surtout d'employer les bons termes. Or, je crois que ces policiers-là ont déshonoré l'uniforme et que c'était ce mot-là qui aurait mieux convenu qu'un terme effectivement un peu galvaudé. Par ailleurs, précisément, il faut défendre nos policiers qui travaillent dans des conditions lamentables depuis des années avec une sous-formation, des sous-effectifs et parallèlement des missions de plus en plus difficiles. Donc effectivement, il faut prendre soin de nos policiers et il faut faire en sorte aujourd'hui qu'ils puissent travailler dans des conditions dignes et qu'ils les honorent eux aussi.
Mais ça pose quand même la question du fonctionnement interne de la police. Y a-t-il un problème structurel de violence, de dérapage, de racisme? Elsa connaît ça.
Moi, je ne suis vraiment pas du tout bien placée pour répondre à cette question. Je pense que c'est très difficile. On est vraiment souvent pris en otage par les vidéos qui circulent dans un sens ou dans l'autre. Moi, je ne suis pas enquêtrice de terrain. Je ne vais pas ni dans les banlieues.
Mais vous êtes une citoyenne.
Oui, mais c'est difficile. En fait, c'est difficile de ne pas réagir de façon affective. Dire, bon, la vidéo qui a été diffusée hier, c'est évident, là, il n'y a pas débat. Je veux dire, je pense qu'elle est longue, elle est complète. Voilà, je veux dire, il faut qu'il y ait une enquête. Mais globalement, je pense que la leçon à tirer de ça, c'est quand même qu'il y a eu plus qu'une exaction. Il y a eu un dérapage inacceptable. Moi, j'ai vécu 4 ans aux États-Unis. J'ai eu l'impression, en regardant cette vidéo, de voir ce que je voyais quasiment toutes les semaines quand j'étais là-bas. Après, est-ce qu'il y a un problème systémique de violence dans la police? Je pense que c'est une question qui est très complexe. Pour revenir au débat sur lequel on était il y a quelques minutes, cet article 24 qui vise à protéger les policiers, moi, je n'ai pas entendu dans le débat actuel de données sur en fait, combien de policiers ont été menacés par la diffusion d'images, je ne sais pas, sur les réseaux sociaux, d'images malveillantes, puisque c'est ça dont il est question. On parle effectivement beaucoup des violences dont les policiers sont victimes aussi, etc. Ça, certes, personne ne conteste ça, mais est-ce que la diffusion des images a permis l'identification de beaucoup de policiers qui ont ensuite été menacés à titre personnel chez eux? C'est quand même de ça dont il est question dans la loi. Ça, j'ai pas eu l'impression que le constat ait été fait de façon, ait été établi avec des faits, avec des nombres, avec des chiffres.
Parce que ce qui est reproché aussi à Gérald Darmanin, c'est qu'il adopte une stratégie très offensive, défendant coûte que coûte les forces de l'ordre. Dans la majorité, certains disent, on a l'impression d'avoir un représentant syndical de la police nationale en face de nous quand il défend les policiers. Il est dans son rôle, évidemment, mais on peut aussi regarder l'institution policière parfois avec un esprit critique, Guillaume Tabar.
Bien sûr, mais je pense qu'il le fait aussi. Il y a quand même des outils internes.
Il ne s'agit pas évidemment d'être pour ou contre la police. Tout le monde est pour la police.
Il y a l'IGPN qui fait son travail. Après, il y a un débat qui est légitime sur savoir si ce qu'il faut que l'instance de contrôle soit quelque chose d'interne à la police ou quelque chose d'externe.
Vous savez qu'en Angleterre, c'est une commission citoyenne, par exemple, l'équivalent du IGPN.
C'est une vraie question. Elle est sur la table. Il faut qu'elle soit examinée et éventuellement réglée. Moi, je suis toujours assez mal à l'aise lorsque l'on parle d'une sorte de racisme structurel au sein de la police. Oui, à l'évidence, il y a des paroles, il y a des gestes racistes et qui sont donc inexcusables et condamnables et qui doivent être sanctionnés, comme dans toute catégorie professionnelle. Et il faut quand même aussi rappeler
que... Quand on est policier, on est plus irréprochable que les autres, parce qu'on est garant de l'ordre public.
Mais il faut aussi rappeler en même temps que je pense que la police est l'un des corps, notamment de corps de la fonction publique, où il y a le plus précisément de mixité. Et souvenez-vous même de ces manifestations supposées antiracistes où des manifestants prenaient à partie des policiers noirs en les traitant de collabos parce qu'en tant que noir, ils n'auraient pas dû être de ce côté-là. Or, précisément, c'est l'honneur de la police aussi d'être le reflet de cette diversité de la société.
C'est vrai qu'on ne va pas faire l'inventaire à la Prévert, mais en peu de temps, il y a eu les éborgnés pendant les manifs gilets jaunes. Il y a eu la condamnation du Conseil d'Europe qui a mis au banc la France sur la proportionnalité de l'usage de la violence. Il y a eu l'histoire de ce groupe Facebook aussi, vous vous souvenez, avec 8000 membres issus pour beaucoup de la police avec des propos racistes. Il y a eu l'histoire de Cédric Chouvia, il y a eu le récit de ce journaliste infiltré, il y a eu les expulsions de la place de la République. Voilà, donc c'est vrai que ça fait beaucoup en peu de temps.
Je pense qu'il faut quand même essayer d'être prudent et de ne pas tomber non plus dans une américanisation des débats au sujet de la police française. La police française, elle a ses défauts, elle a aussi sa propre histoire, et la société française aussi a sa propre histoire, et ce n'est pas la même que la société américaine. On a vu précisément, après l'assassinat de George Floyd, la tentative par le petit groupe autour d'Assa Traoré de faire des parallèles qui étaient injustifiés et inqualifiables. Or, précisément, ce qui est intéressant et important dans l'affaire aujourd'hui de Michel Zecler, c'est que Michel Zecler, lui, il ne fait pas ces confusions-là. Et que lui, il ne tient pas précisément un discours sur un racisme systémique, sur des policiers qui seraient tous racistes. Au contraire, lui, il dit...
Et pourtant,
j'ai confiance.
Il en a été victime du racisme dans son fait.
Exactement. Et il dit, j'ai été frappé parce que je suis noir et on m'a traité de sale nègre. Et d'ailleurs, les policiers sont incriminés sur ce motif. Et lui a dit, ces gens-là, pour moi, ce ne sont pas des policiers parce que j'ai des amis policiers, je respecte la police, je ne les considère pas comme des policiers à part entière. Donc lui n'est pas, justement, dans ce discours-là, ni victimaire, ni d'accusation de racisme systémique. Et je crois que sa parole, c'est une parole de dignité qu'il faut entendre plutôt que de tomber dans ce qu'on a entendu au moment de mai-juin autour de ces groupes militants indigénistes autour de Youssef Brakni et d'Assa Traoré qui sont des gens qui veulent fracturer la société française et précisément essayer de faire des parallèles qui n'ont pas de raison d'être.
18h48, vous restez avec nous. On continue d'en parler avec les grandes voix du vendredi. À tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
18h50, le débat des grandes voix du vendredi avec ce soir à mes côtés toujours l'enseignante essayiste Barbara Lefebvre, Elsa Conessa, rédactrice en chef aux Échos, et Guillaume Tabar, rédacteur en chef éditorialiste politique au Figaro. Et on continue évidemment ce soir de parler de ce débat sur la violence policière après cette vidéo de passage à tabac d'un producteur noir par trois policiers. Je voudrais vous faire écouter les uns et les autres à ce que disait le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, le 29 juillet dernier.
Quand j'entends le mot « violence policière », personnellement, je m'étouffe. La police exerce une violence, certes, mais une violence légitime. C'est vieux comme Max Weber. Après, elle doit le faire de manière proportionnelle, elle doit le faire de manière encadrée, que quelques personnes le fassent en dehors des règles déontologiques, de la sanction doit être immédiate.
Voilà. J'insiste un peu, on est d'accord ou pas d'accord, mais c'est vrai qu'on a toujours le sentiment en France qu'on n'a pas le droit d'en parler, que c'est un peu tabou, Guillaume Tabar, sur cette question des violences policières, ou non d'ailleurs. Et certains disent aussi que le ministre Darmanin a renforcé ce sentiment d'impunité des policiers avec ce genre de prise de parole.
Non, il n'y a aucun tabou, et même la meilleure preuve, et aussi c'est une réponse à tous ceux qui depuis quelque temps disent que nous ne sommes plus vraiment en démocratie, on a le droit de dire ça, et aujourd'hui, dans les médias et partout, des gens qui s'emportent violemment et qui dénoncent ce qu'ils appellent les violences policières. Donc, je veux dire qu'il n'y a aucun, il y a aucun tabou. Bon, et par définition, une information, c'est une information. Il n'y a pas ni à la minorer, ni à la survaloriser. Il y a à la traiter pour ce qu'elle est, dans son caractère factuel. Et donc, ensuite, avec tout ce que ça peut avoir comme charge positive ou négative, ce que ça peut susciter comme indignation, comme révolte, etc.
Bon, est-ce que
ça, c'est
plan...
une chose. Mais après, il faut élargir le... Enfin, on ne peut pas non plus juger d'un corps entier sur l'attitude de quelques-uns. Même s'il faut être intraitable sur la dénonciation de cela.
Est-ce que ça fragilise, en tout cas, le ministre de l'Intérieur, ces différents épisodes ? Elle, ça connaît ça.
Je crois que c'est difficile d'affirmer qu'il n'est pas fragilisé, hein, quand même. Enfin, ce qui me frappe, moi, c'est effectivement cette impossibilité qu'il a, enfin, que le gouvernement a à sortir de ce côté binaire entre on soutient les flics ou on parle que des violences policières. Je pense que c'est une difficulté qui sera résolue que par Macron lui-même. Enfin, on ne l'a pas tellement entendu sur ces questions-là, mais on a l'impression qu'effectivement, il n'y a pas de milieu, ce que vous disiez tout à l'heure.
Oui, et puis d'un côté, on a un président de la République qui appelle à longueur de discours, à la bienveillance, au respect des valeurs. Alors évidemment, si de l'autre côté, on a certains policiers qui se sentent tout puissants, ça brouille le message. Et puis une nouvelle ligne de fracture aussi, Barbara Lefebvre, avec Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice, qui hier, sur LCI, disait « s'il n'y avait pas eu de vidéo, on n'aurait pas connu l'affaire ». Voilà que M. Dupond-Moretti remet une pièce pour relancer la polémique avec le ministre de l'Intérieur.
Oui, on sent là la concurrence entre ces deux ministres. C'est comme le jeu, vous savez, où quand vous tapez avec le maillet sur un personnage, il y a l'autre qui sort. Donc là, effectivement, M. Darmanin est en grande difficulté. Donc M. Dupond-Moretti est censé représenter cette « et en même temps ». En fait, là, on a le couple du « et en même temps ».
Oui.
C'est-à-dire, on a Gérald Darmanin qui séduit l'électorat de droite, et puis on a Dupond-Moretti qui séduit un électorat soi-disant de gauche. Et cette espèce de « en même temps » qui ne veut rien dire, parce qu'en réalité, Dupond-Moretti va être quand même dans la solidarité gouvernementale, et Gérald Darmanin, à un moment ou à un autre, sera obligé d'avaler son chapeau. Donc, de toute façon, Emmanuel Macron aura gagné, il aura remis encore une fois la balle au centre, mais à travers, sans doute peut-être d'ailleurs, une prise de parole autoritaire, encore une fois, et ça viendra de lui, et c'est lui qui sifflera la fin de partie. Donc on revient à ce que moi je considère être un centrisme autoritaire qui finalement se révèle assez dangereux.
Match nul à l'arrivée, Guillaume Tabard ?
Non, d'abord, sur le ministre de l'Intérieur contre le ministre de la Justice, c'est pas le macronisme, c'est pas le en même temps macronisme, oui. C'est une figure de style de consubstantielle de la Ve République. On a vu ça, Pasqua Magnery, Guigou Chevènement, Sarkozy Perben. Bon, ça, c'est un classique. Ensuite, être vainqueur, c'est pas remettre la balle au centre, parce qu'il y a un autre acteur quand même qu'il ne faut pas oublier dans tout ce débat-là, c'est l'opinion. Hein. L'opinion, elle n'attend pas d'Emmanuel Macron qu'il fasse le juste milieu entre Darmanin et Dupond-Moretti, pour faire bref. Elle attend d'Emmanuel Macron, on a le sentiment que sur la question d'autorité, il y a une attente d'une réponse qui soit assez forte.
Oui.
Et je pense que le centre de gravité, si on veut incarner les choses, que le centre de gravité de l'opinion, il est aujourd'hui plus du côté de Darmanin que du côté de Dupond-Moretti. Alors ensuite, il se prend les pieds dans le tapis avec l'article 24.
Autant,
donc il y a des ratés de méthode. Mais je pense qu'il lui-même commettrait une erreur, et pour l'instant, en tout cas, il ne va pas sur ce terrain-là, de croire qu'il pourrait améliorer son image en renonçant à sa posture sécuritaire, pour faire bref.
Alors, coup de griffe ou coup de cœur pour terminer ? Il nous reste quelques secondes, Elsa.
Alors, plutôt coup de cœur, hein, je voulais vous parler de l'Allemagne, en fait, ce soir, et d'une décision du gouvernement d'Angela Merkel qui est passée un peu inaperçue ici. En fait, il s'agit de la mise en place de quotas de femmes à la tête des entreprises allemandes. Hein. Vous savez, il y a déjà des quotas de femmes dans les conseils d'administration dans plusieurs pays. Mais l'Allemagne va plus loin. C'est le premier pays à le faire avec la Suisse, à vouloir imposer la présence de femmes dans les directoires des entreprises, c'est-à-dire vraiment dans les instances de dirigeantes. Alors si la loi est adoptée, eh bien, toutes les entreprises de plus de 2000 salariés devront avoir au moins une femme dans leur état-major. Alors il faut savoir que les Allemands sont très en retard au sein du monde occidental, malgré l'incroyable longévité de la chancelière. On a seulement 12% de femmes dans les comités exécutifs des entreprises allemandes, contre quasiment 30% aux États-Unis. Alors évidemment, les patrons allemands crient à l'ingérence, hein, ils ne sont pas ravis par la perspective de ce texte. Mais le problème, c'est que en l'absence de quotas, on n'a aucune raison que la situation change. En Allemagne, toutes les mesures qui étaient simplement incitatives ont échoué, et la féminisation des conseils d'administration n'a pas permis de favoriser la féminisation.
Merci Elsa. Petit coup de cœur, il ne nous reste que quelques
secondes. Oui, juste
pour
dire que samedi, il va y avoir une manifestation, donc Place de la République, 14h, sur justement cette question de l'article 24.
Oui.
Et c'est le jour aussi où les commerçants rouvrent. Il va y avoir ça d'ailleurs dans beaucoup d'autres villes en France. Donc j'espère, en tout cas pour Paris et pour le reste des villes, que les manifestants vont se comporter correctement, et aussi que la police, et à Paris en particulier le préfet allemand, vont aussi se comporter correctement pour que la manifestation se déroule correctement, mais aussi pour que nos commerçants puissent reprendre enfin le travail sans risquer des dégâts et des casses.
Guillaume.
Alors un coup de griffe pour la gestion par Jean Castex du déconfinement concernant les cultes. On parlait des commerçants et la manière dont, alors que le président de la République lui-même voulait un geste un peu de bon sens pour mettre des règles qui soient communes à tous les acteurs de la vie publique, cette manière qu'il a eue de se braquer et d'imposer une norme considérée par tout le monde, y compris par le président, comme n'étant pas réaliste, fait un sentiment un peu d'un acte de, on va dire quoi, d'autoritarisme, et surtout qui recrée un objet de conflit au lieu de parvenir à l'apaisement.
Merci Guillaume, merci à tous les trois et toutes les deux, et bon week-end. 18h57, on se retrouve dans un instant pour le journal, à tout de suite.